Radio Okapi.
Six morts foudroyés et la destruction des maisons, c'est le bilan des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue mercredi sur la région d'Idiofa dans la province d'Ikwilu. En Ituri, les forces armées congolaises et ougandaises ont réussi à démanteler un bastion des rebelles des ADF au Mont Oyo dans les territoires du Rumu, occasionnant ainsi la libération des plus de 100 otages. C'est le résultat des bombardements lancés mercredi par ces forces conjointes vers le bastion de l'ennemi. L'invité de la rédaction ce midi est le coordonnateur intérimaire du Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Chansar Bolukola Osoni s'exprime sur les opérations d'indemnisation individuelle des victimes de la guerre des 6 jours. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour à tous. Ce journal part d'Ikwilu où au moins 6 personnes sont mortes foudroyées. C'est le bilan de la pluie abattue dans la journée de mercredi sur la commune rurale d'Idiofa et ses environs dans les territoires portant le même nom. C'est les sources de la société civile de ces territoires qui livrent l'information. Parle aussi d'énormes dégâts matériels dont la destruction des maisons et des avenues. Irène Mbomaluzolo.
C'est à l'issue de cette averse qui n'a duré que quelques minutes dans la journée de mercredi que cet incident s'est produit dans la cité d'Idiofa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, et à Gombe, localité située à quelques kilomètres de la dite cité dans le secteur de Kimputu. D'après la nouvelle société civile locale qui alerte, le bilan fait état d'au moins 6 personnes, dont 3 femmes, qui ont été tuées par la foudre. Parmi ces personnes, Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure, indique que 4 ont été foudroyés dans la cité d'Idiofa et 2 autres à Gombe. Outre ce bilan humain, la même source ajoute que cette pluie a aussi occasionné d'énormes dégâts matériels. Par exemple, des maisons d'habitation des paisibles citoyens qui se sont écroulées, laissant ainsi du coup des ménages sans abri. La même pluie a également provoqué la destruction de plusieurs artères principales de cette commune rurale qui sont devenues impraticables, indique Arsène Kassiama. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la panique s'est emparée de la population de Kavumu hier lorsque des bandits non autrement identifiés ont tiré à bout portant sur un habitant de la place à au moins 1 kilomètre de l'aéroport de Kavumu dans le territoire de Kabare. C'est à 25 kilomètres au nord de Bukavu. C'était dans la soirée. Les assaillants se sont volatilisés après leur forfait, laissant la victime gisant dans le sang. La société civile de Bugore déplore la multitude de soldats incontrôlés dans la région. Justin Moulemangabo sollicite à la hiérarchie militaire et policière de bien identifier les hommes en uniforme déployés officiellement dans la région. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Demandons au service de sécurité, surtout à l'armée, d'identifier les éléments que nous avons à Kavumu, parce que désormais, les militaires que nous avons, nous ne les connaissons presque pas, parce qu'ils circulent sans contrôle, et voici qu'on venait d'être endeuillés par des éléments incontrôlés. Nous avons besoin de la sécurité à Kavumu, et nous avons besoin de vivre la quiétude, c'est pourquoi les autorités militaires doivent rétablir de l'ordre au sein des éléments de l'armée comme de la police et contrôler la circulation et le port des armes. Nous condamnons avec la dernière énergie l'insécurité qui refait surface au centre commercial de Kavumu où, aux environs de 19h30, on venait de perdre Baba Dieu Merci, communément appelé Kabwana, qui venait d'être tué par des inciviques armés non identifiés.
Les autorités militaires et de la police en province sont restées injoignables. Nous sommes en Ituri. Les forces conjointes FRDC-UPDF ou armée ougandaise ont démantelé mercredi dernier un bastion des rebelles des ADF au Mont Oyo dans la chefferie de Wale-Sevonkutu. Nous sommes dans les territoires d'Irumu. Des bombardements ont été entendus tard dans la soirée vers le bastion de cette force négative, affirment des sources sécuritaires. La société civile locale indique que 118 otages, dont des femmes et des enfants, ont été libérés. Son président, Pascal Kisezo, demande à la population d'être vigilante et de dénoncer tous les mouvements suspects dans la zone. Il est joint par Ezekiel Mouzalia.
Il y a eu plusieurs tirs de bombes par les IPDF orientés vers Mouyo,
Nous avons vu la présence de plus de 118 personnes. Ils étaient arrêtés par les éléments de la FPIC. Ne s'est rescapé la OI à se sauver. Vers Moyo, il n'y a pas une population comme telle, mais c'était un mouvement suspect des ADF qui ont passé vers Moyo. C'est pour cela que l'armée a bombardé de ses côtés. Ils disent que ça fait déjà longtemps. Il y a ceux qui disent 6 mois, une année, même 2 ans. Il y a 89 hommes, il y a 4 enfants. Nous avons 5 filles et 20 femmes. À la population, je le demande d'être calme et aussi de multiplier la collaboration avec les FARDC et CKPDF pour neutraliser tous les ennemis qui circulent dans cette partie de la zone et d'être très vigilante.
Dans les territoires de Beni au nord Kivu, un déplacement des populations a été signalé dans la nuit de jeudi à vendredi à Kantine, une localité du groupement de Basso Amadioué, à une 50aine de kilomètres de la ville de Beni. À l'origine, le passage dans la région des hommes armés assimilés aux rebelles des ADF. Le conseil local de la jeunesse appelle la population au calme. Marc et Marofimbo pour les détails.
Les premiers mouvements de ces hommes armés a été observé aux environs de 23 heures, heure locale, sur l'axe Kantine Mabala Komalese, précise le président du conseil local de la jeunesse de Kantine. La population a cru à une incursion des rebelles des ADF et a commencé à fuir dans toutes les directions. Ensuite, un autre mouvement de ces hommes armés a été observé à Central et Kabweke, vers la partie ouest de Kantine. Une situation qui a provoqué le déplacement de la population vers des endroits jugés sécurisés. Alertés, les autorités locales et quelques jeunes se sont mobilisés pour s'imprégner de la situation. Après vérification, il s'agissait plutôt des jeunes résistants wazalendo armés qui se rendaient vers la partie ouest de cette entité, indique Tchétchia Yamini, le président du conseil local de la jeunesse. Le calme est revenu ce matin dans la région où les habitants qui avaient fui la veille commençaient à regagner progressivement leurs habitations, indique notre source. Rappelons que depuis la dernière attaque des rebelles de l'ADF dans cette entité au mois d'avril dernier, la population vit toujours dans la psychose. Le conseil local de la jeunesse demande aux autorités de renforcer les mesures sécuritaires dans cette région afin de rassurer la population de sa sécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nous restons au nord Kivu. Des bandits armés ont sémé la panique dans plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi, ville de Goma. Des coups de feu ont été entendus durant une bonne partie de la nuit dernière. Les habitants ont recouru à toutes les formes d'alerte pour dissuader les malfrats qui tentaient de faire du porte-à-porte pour cambrioler. Ce matin, on parle de 3 personnes retrouvées mortes et d'un blessé par balle admis pour des soins. Chris Mukand.
Le blessé qui a été reçu à l'hôpital Sebekandocho est un enfant qui a été atteint par une balle tirée par des bandits qui se sont introduits dans la maison familiale. Après avoir pris tous les biens de valeur, les bandits ont tiré sur les occupants, tuant sur le coup les 2 parents. Cela s'est passé sur l'avenue Seyavu au quartier Mugunga. Sur l'avenue Mouchebere, un corps sans vie d'une dame a été découvert par les passants. L'identité de la victime reste inconnue, de même les circonstances de son décès. Le compte donne 3 morts et 1 blessé à l'une seule et même nuit pour le quartier Mugunga. Divers autres quartiers de la commune de Karisimbi ont fait l'objet de plusieurs tentatives d'incursion des malfrats dans les maisons des particuliers, ce qui explique ces coups de feu entendus presque toute la nuit dans la majeure partie de la commune de Karisimbi. Les actes de banditisme se sont multipliés cette semaine dans la commune de Karisimbi. Mardi, un jeune homme présenté comme changeur de monnaie a été abattu par des inconnus armés alors qu'il descendait d'un taxi dans la soirée. Le mercredi, c'est un conducteur des mototaxis qui a été criblé de balles par des bandits déguisés en passagers. La société civile de Karisimbi, qui rapporte ces faits, déplore cette montée de criminalité en ce début de fin d'année et en appelle à des mesures idoines de la part de l'autorité. Goma, Chris Mukand, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Le 31 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'épargne. À Bunyanituri, la population développe de plus en plus la culture de l'épargne. Le nombre de clients ou de maisons d'épargne ne cesse de croître. Mais de nombreux habitants continuent à thésauriser leur argent. Une pratique découragée par les banquiers et responsables des sociétés de microfinance. C'est ce que nous dit Nelly Kataka dans ce reportage.
De nombreux habitants à Bunia placent leur argent dans des institutions financières. Et pour des agents de l'État et même de certaines entreprises, avoir un compte est devenu obligatoire pour le paiement de leur salaire, ce qui contribue à la promotion de culture de l'épargne. Une femme que nous avons rencontrée en plein retrait explique les bienfaits de l'épargne formelle.
L'épargne m'aide à scolariser mes enfants. Je conseille aux mamans de garder leur argent à la banque, qu'importe leur revenu. Même avec 10 dollars, on peut épargner, créer un compte bloqué même pendant une année.
Selon le responsable de Mutuelle d'épargne et de crédit Bounia Mekrebou, au moins 60 nouveaux membres s'ajoutent chaque mois dans cette coopérative de crédit. Mais le défi reste énorme à relever car 60 milliards de dollars américains circulent hors circuit bancaire, indique-t-il. Emmanuel Mapirimoja décourage la population de garder l'argent à la maison et les encourage à le placer dans les circuits formels pour une bonne sécurité.
Dans les temps passés, il y a eu des opérateurs qui ont fait faillite et qui ont essayé un peu de décourager l'idée de l'épargne. Maintenant, il y a un suivi rapproché de la Banque centrale et donc nous voulons encourager les gens à avoir la culture des banques.
Signalons que cette journée est consacrée à la sensibilisation de la population sur l'importance de l'épargne. Bounia, Nelly Kataka, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où la vie renaît petit à petit à Samboko, un village du territoire de Beni. C'est en partie grâce à la collaboration entre les FRDC et la MONUSCO, mais aussi entre les populations locales et les forces de sécurité. Cependant, malgré la calmie qui règne dans cette région depuis plusieurs mois, les femmes éprouvent des difficultés pour leur autonomisation. À cause de l'insécurité des groupes armés qui se sont repliés dans la périphérie du village, notamment des ADF, ces femmes ne peuvent se rendre dans la profondeur de la forêt pour leurs activités champêtres. Asifu Okaindo, la représentante des femmes locales, estime qu'apprendre des métiers à ces femmes leur permettra de subvenir à leurs besoins. Elle a dit mardi au cours d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région. Asifu Okaindo est au micro de Guylaine Kassassia.
À cause de la sécurité qui a frappé notre village, les femmes n'ont pas d'occupation. Autre chose est que les femmes de ce village ne savent pas lire et écrire. Jusque-là, nous n'avons jamais eu d'ONG qui peuvent nous apprendre des petits métiers. Qu'elles pensent à nous aussi. Notre principale activité est l'agriculture, mais nous avons toujours peur d'aller dans nos champs en profondeur. C'est pourquoi certaines passent de journée sans rien faire. Mais si nous avons des ONG, ces femmes sont prêtes et capables d'apprendre tout métier comme le tissage de paniers, la coiffure ou la coupe et couture. Avant, nous avions un bureau, ce qui n'est plus le cas actuellement. Avant la guerre, nous avions déjà initié différentes associations de femmes, mais qui n'existent plus aujourd'hui, car nous avions fui chacun dans sa direction. D'autres même ont péri lors de ces attaques. Ici, il y a plusieurs veuves, leurs maris ayant été tués par les rebelles. Voilà pourquoi il nous est nécessaire d'apprendre différents métiers, parce que même si on aurait mis une enveloppe, elle ne nous servira à rien.
Dans l'actualité, sachez aussi que les grandes villes des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba connaissent depuis un certain temps une perturbation dans la desserte en énergie électrique. D'après le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL, cette situation est causée par la baisse du niveau d'eau, notamment aux centrales des Koni, Mwandingusha, Nzilo et Nseke. Conséquence, plusieurs machines sont à l'arrêt. Pour Jean-Marie Mutombongoy, la situation se rétablira avec une bonne pluviométrie. Pour ne pas pénaliser tout le monde à la fois, la SNEL procède au système de délestage en attendant que les niveaux d'eau puissent augmenter. On écoute Jean-Marie Mutombongoy au micro de Jean Gando.
Nous sommes alimentés du côté centre et sud par les deux centrales de Koni et Mwandingusha, qui à ce jour, sur 9 machines installées, il n'y a que 2 machines qui fonctionnent, dû à la diminution d'eau sur les lacs de la Lufira. Et si aujourd'hui vous descendez à Mwandingusha au niveau des barrages, vous allez constater que toute la berge est totalement sèche. Pourquoi? Parce que tous les influents de la rivière sont également sèches en amont, ce qui fait qu'au niveau de la centrale, le niveau d'eau a diminué. D'ailleurs, entre les niveaux max et minimum, vous avez à peu près les 3 mètres qui ont diminué. Donc aujourd'hui, nous sommes en deçà de ces niveaux minimum. Donc nous sommes au niveau critique. Donc il était question que l'on puisse retirer pratiquement 6 machines en exploitation et les mettre à l'arrêt pour éviter de les exposer. Et du côté ouest, vous avez la centrale d'Enzilo et d'Enseke. À cause de ces diminutions d'eau, également, il y a une machine qui est à l'arrêt en Seke pour protéger et sauvegarder et faire la gestion optimale des eaux afin d'éviter que ces niveaux bas des eaux puissent nous amener jusqu'à l'année 2025, c'est que les choses risquent de se compliquer.
Actualité internationale.
Ce vendredi 1er novembre, l'Algérie célèbre le 70e anniversaire du début de la guerre d'indépendance qui a duré 7 ans entre 1954 et 1962. Plusieurs festivités officielles sont prévues dans le pays, dont une parade militaire à Alger. Les jeunes Algériens restent partagés sur la question de la mémoire.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les opérations d'indemnisation individuelle des victimes de la guerre des six jours se poursuivent sans désemparer. Bientôt, le FRIVAO, Fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, va se déployer dans les autres provinces démembrées de la Grande Orientale. Objectif, identifier les victimes et éventuellement les indemniser. Le coordonnateur intérimaire de cet établissement public l'a annoncé au cours d'une interview exclusive accordée mardi à Radio Kapi. Chansar Bolukola Osoni s'entretient avec Jacques Mukonkole.
Chansar Bolukola Osoni, bonjour.
Oui, bonjour.
Environ deux mois après votre avènement à la tête de cet établissement public, combien de victimes sont déjà indemnisées et combien il en reste encore?
Ok, bien merci. Jusque-là, nous avons déjà indemnisé 1843 victimes, mais de ce nombre, il y a 2150 qui ont déjà été envoyées à la Rabanque.
Combien de victimes au total sont certifiées?
Bon, au total, nous avons trouvé 3163 victimes qui ont été certifiées parmi les lots de 14 818 victimes qui ont été identifiées par la coordination précédente.
Quelle procédure avez-vous mise en place pour identifier toutes ces victimes?
Aussitôt arrivé, nous avons mis en place une commission ad hoc qui était chargée de contrôler de façon physique d'abord toutes les victimes là qui ont été certifiées. Et en ces jours, nous sommes presque à la fin. C'est comme ça qu'au courant de la semaine, nous voulons déjà appeler les cadres de concertation pour monter une commission de certification de toutes ces victimes là, les 11 000 restants pour cause des convocations, pour cause de prise en charge médicale et pour cela aussi dans les dossiers nécessitaient des enquêtes ou encore les dossiers étaient écartés, nous sommes dit nous allons mettre en place une commission pour essayer de statuer sur tous ces dossiers-là.
Monsieur le coordonnateur, les victimes certifiées reçoivent depuis que vous êtes là une enveloppe de 2 000 $ américains. Pourrait-il évoluer ou on va en rester là? Nous savons que l'Ouganda n'a pas encore apuré à son litige vis-à-vis de la RDC.
Ah oui, tout à fait. Je pense que je pèse mes mots. Le montant va s'améliorer. Mais si nous avons décidé de remonter à 2 000 $, c'était à la fois une demande des élites nationaux, mais aussi une demande des victimes elles-mêmes. Parce que autrefois, les victimes percevaient 300 $, 400 sur base des catégorisations. Mais la crainte, c'était qu'on ne connaissait pas encore le nombre exact de victimes. Alors, pour ne pas discréditer les autres, il était question de donner aux victimes une somme qui sera un peu à la hauteur de revenus que chaque victime pourrait mettre en place pour générer des activités. Et une fois que nous aurons le nombre exact de toutes les victimes, c'est-à-dire qui composent l'ex-province orientale des Mambrés, nous allons alors appliquer une clé de répartition pour essayer de catégoriser toujours les victimes en respectant bien sûr l'esprit de l'arrêt.
Oui, puisque vous parlez de l'espace Grande Orientale, à quand la descente dans ces milieux pour essayer de les identifier avant de leur donner aussi l'air dû?
Je pense que c'est dans un mois parce que dans quelques semaines, nous aurons notre réunion des conseils d'administration. Nous avons déjà préparé notre plan de déploiement dans d'autres provinces et l'avantage, c'est que nous avons eu de pourparler avec le gouverneur de Bazouélé durant la visite du chef de l'État, monsieur le président de la République à Kisangani. Nous avons échangé avec le gouverneur de Bazouélé. Nous avons essayé de monter des titres de faisabilité mais aussi, je crois, la semaine prochaine déjà, nous allons avancer avec les pourparlers. Une fois que les administrateurs seront ici, après le conseil d'administration, chaque administrateur, parce qu'ils sont au nombre des trois, doit nécessairement piloter le plan de déploiement de chaque province.
À propos de l'indemnisation, il n'y a pas que des indemnisations individuelles en cours. Il y a aussi les indemnisations collectives. C'est dans ce cadre qu'il y a actuellement un mausolée en construction. Est-ce que le FRIVAO a prévu autre chose à part le mausolée?
Ah oui, tout à fait, parce que nous avons trouvé des types de cahiers. Il y a un cahier des notabilités, c'est-à-dire le projet qui ont été proposés par les autorités tant provinciales que urbaines de la ville. Mais en même temps aussi, il y avait un cahier des charges proposé par l'association des victimes. Et que les mausolées, comme je l'ai dit tantôt, et je les redirai toujours, ça sera un acquis historique. Ça sera pour la première fois que la RDC se dotera d'un mémorial. Avant la fin de l'année, nous allons déjà commencer avec la construction d'un hôpital moderne parce que la ville de Kisangani...
Et dans ce cadre de l'indemnisation collective, les élus proposent que le FRIVAO puisse être mis à contribution une fois de plus, que le FRIVAO s'implique davantage pour résoudre durablement ces problèmes d'électricité dans la ville. Qu'en pensez-vous?
En ce moment, je pense que c'est aussi une solution parce que c'est près d'une décennie aujourd'hui qu'il n'y a plus de courant. Et aujourd'hui, je suppose que s'il y a l'électrification de la ville, les investisseurs viendront, il y aura la promotion des usines d'entreprise, mais je suis sûr et certain que le chef de l'État aussi posera un geste. Alors là, ça sera une mutualisation d'efforts, parce que c'est ce qui nous préoccupe tous pour arriver à résoudre, parce que parmi les projets alloués pour l'électrification, c'est aussi les désenclavements de cette...
Chanceur Bouloukola Ossoni, oh, merci.
Notre invité répondait aux questions de Jacques Moukonkole. 12h20 dans ces studios de Radio Kapi Kinshasa. C'est la fin de ce journal coordonné par Jacques Molima et supervisé par Alain Rong. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou et grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Merci d'avoir été des nôtres.